le salut que nous avons en Jésus-Christ est complexe et en même temps bien détaillé dans les Écritures. Suite à la lecture du livre « Le bon fondement », écrit par Olivier Fabre, dont la lecture a été une véritable bénédiction pour moi, je me suis dit « Pourquoi pas en faire profiter l'Assemblée ?» J'ai été davantage comblé dans la préparation de ces études. Ce fut édifiant pour mon âme, puis j'espère que ce sera de même pour vous. Vous avez sûrement bien saisi que je me suis grandement inspiré du livre. Puis je dois dire que je me sens aussi d'une même âme et d'une même pensée avec M. Fabre. Alors, si jamais vous avez déjà lu ce livre-là, vous reconnaîtrez sûrement l'approche du pasteur Fabre. Nous allons commencer par un 7-8 minutes de lecture pour se mettre dans le contexte, parce qu'on va prêcher sur la parole de Dieu, alors c'est important de lire les Écritures. Je vous invite à tourner avec moi dans Genèse 3. Nous allons lire, je vais vous lire le chapitre au complet. Alors, nous allons faire trois lectures ce matin, et nous allons débuter par Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Comme deuxième lecture, Je vous invite à tourner dans Romains 3. Vu que c'est une thématique, je vais faire ma lecture avant pour nous mettre dans le contexte. Alors, Romains 3, je vais vous lire les versets 9 à 20. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et comme dernière lecture, je vous invite à aller un petit peu plus loin dans Romains 5, et je vais vous faire la lecture des versets 12 à 21. Alors, Romains 5, 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à courber vos têtes et vos cœurs avec moi. On va commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de toi. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Notre Dieu, nous te prions ce matin que tu puisses calmer nos cœurs, qu'on puisse mettre nos tracas, nos soucis de côté, et entendre les merveilles de ta parole, parce que ta parole est merveilleuse. Notre Dieu, rends-nous réceptifs, qu'on puisse être des auditeurs attentifs et en même temps pouvoir constater les merveilles de ta parole, parce qu'elle est merveilleuse. Au nom de Christ, amen.
Amen. Amen.
Le titre du message de ce matin, c'est « La chute ». Nous allons voir trois choses ce matin. Comment le péché entra dans le monde de Dieu, parce que c'est le monde de Dieu, la transmission du péché à toute la race, et puis la bonne nouvelle pour le pécheur. Le sujet que nous allons entreprendre est fondamental pour comprendre le décalage qui existe entre la conclusion du récit de la création où tout était très bon, Et ce que nous constatons autour de nous chaque jour, c'est-à-dire la souffrance, la haine, les conflits, la mort, la violence et l'insatisfaction continuelle. Puis cela, là, ça se vit partout, même dans l'Église. Nous n'avons pas besoin de fermer les yeux sur cette triste réalité comme le font ceux qui ont rejeté Dieu et l'enseignement de sa parole, qui se persuadent par tous les moyens de lendemain meilleur, qui parlent et préparent l'unité entre tous les peuples alors que la guerre existe partout et souvent dans leur propre couple et même dans leur famille. La Bible, tout en maintenant que la création était réellement bonne et parfaite, nous donne l'explication. C'est ce qu'on appelle en théologie la chute. C'est l'entrée du péché dans le monde. Nous verrons en effet qu'à un moment précis, le péché est entré dans le monde et a fondamentalement désorienté et souillé la création de Dieu, entraînant avec lui des conséquences pour l'humanité toute entière. Il y a une chose qui est très importante à définir ici. Qu'est-ce que le péché selon la Bible? Vous savez, si nous posons la question à nos contemporains, là, qu'est-ce que le péché? Certains répondront en disant que le péché n'existe pas. D'autres que ce sont des tabous, des barrières que vous êtes forgées et dont vous devez vous débarrasser. D'autres encore que ce sont les comportements qui leur apportent de grandes satisfactions, qui leur permettent de jouir de la vie. Mais en réalité, ce matin, là, ce qui nous intéresse, nous, là, c'est de savoir comment la parole de Dieu définit le péché. On va voir d'abord un premier verset, 1 Jean 3, 4, qui dit « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. » Et le péché, c'est la violation de la loi. Le péché, selon la parole de Dieu, c'est la transgression de la loi, mais pas de n'importe quelle loi, de la loi de Dieu. Puis, dans Romains 8, 7 et 8, il est écrit « Car l'affection de la chair est inimitié ou ennemie contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » En réalité, elle en est incapable. Or, ceux qui vivent selon la chair, en réalité qui sont comme sous l'emprise de la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Le péché, là, c'est tout simplement le manque de conformité à cette loi de Dieu. Ainsi, la Bible nous donne une définition claire du péché. C'est autant de ne pas être conforme à la loi de Dieu que de transgresser cette même loi de façon délibérée et volontaire. Petite gorgée d'eau. Un père, là, s'attend à ce que ses enfants l'aiment et le respectent. Mais en même temps, là, un père donne aussi des ordres et des commandements explicites à ses enfants. Dans cet exemple, le péché serait donc de se détourner de l'un comme de l'autre, ne pas aimer son père et en plus désobéir volontairement à ses commandements. Alors, si aujourd'hui vous vivez sans vous préoccuper de ce que Dieu enseigne dans sa parole sur la façon de se comporter ou de vivre dans ce monde, vous attestez par là que vous êtes un pécheur et vous péchez. Il en va de même si vous connaissez l'enseignement de la Bible et que vous refusez de vous y soumettre. Si vous savez ce que Dieu vous demande dans un domaine précis et que vous lui désobéissez délibérément. Quel était donc l'état d'Adam et Ève avant que le péché entre dans le monde? D'après Genèse 2,15, il avait été placé dans le jardin d'Éden avec la mission spécifique de le cultiver et de le garder. Genèse 2,25 nous dit qu'il y vivait dans une harmonie parfaite avec le Créateur et l'un avec l'autre. Ça dit, L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Il était à ce moment-là libre et capable de faire le bien et d'obéir à Dieu, ou de choisir le mal et de désobéir. Mais il n'y était pas contraint par une force extérieure. Il avait reçu un seul commandement auquel était joint un avertissement. Genèse 2,17 dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Plusieurs de nos versions même disent « Tu mourras certainement. » Ce commandement était la façon dont Dieu demandait à Adam et Ève de reconnaître leur identité propre de créature soumise au Créateur, de reconnaître qu'il ordonne toutes choses et que la soumission et l'obéissance lui sont dues. Étant en communion avec Dieu, rien dans cette création parfaite ne contraignait donc Adam et Ève à se rebeller contre lui. Mais le chapitre 3 de la Genèse nous décrit l'arrivée du serpent. Notez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel serpent. Le texte ne dit pas un serpent, mais le serpent. La Bible nous montre bien que la venue du serpent était une manœuvre du diable dans le but de tenter Adam et Ève. Apocalypse 22 nous permet d'identifier clairement le serpent avec le diable. Le verset dit « Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. » Que fait donc ce serpent? Il sème le doute dans l'esprit d'Ève sur l'authenticité et l'autorité de la parole de Dieu. Il dit, tournez dans le chapitre 3, on va être là un petit bout là. Chapitre 3 de la Genèse, il dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Dieu est-il vraiment le seul à savoir ce qui est bon pour vous? Le seul à avoir le droit de vous donner un commandement sur ce que vous devez faire? Une fois le doute semé dans la pensée d'Ève, les choses y déboulent, mais y déboulent très vite. Genèse 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement, elle prit de son fruit et en mangea, donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Comme le dit si bien Nancy Gans dans son livre, Ève a écouté la parole du serpent, Adam a écouté la parole de sa femme, mais personne n'a écouté la parole de Dieu. La femme séduite dans sa pensée voit, convoite, et mange. Quel drame! Satan amène Ève à douter de l'autorité de la parole de Dieu et le péché entre dans le monde. L'apôtre Paul reprend d'ailleurs cet événement de Genèse 3 pour exhorter à être vigilant, à veiller sur nos pensées. Tournez 2 Corinthiens 11, 3. L'apôtre Paul nous dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Veillons donc sur nos pensées, car c'est là un domaine particulier où l'ennemi sème le doute, nous séduit et nous entraîne dans le péché. » L'ennemi, là, il nous encourage à relativiser les commandements de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Pour en arriver à des interprétations erronées de ceux-ci, il nous pousse à nous conformer davantage à nos conceptions du monde qu'à ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, le mot jour dans le récit de la création ne veut plus dire jour, mais une longue période géologique. La différence entre les sexes est niée, puis on pourrait en beurrer large. Veillons donc non seulement sur nos actes, mais aussi sur nos pensées, en nous souvenant que c'est en séduisant Ève, au niveau de ses pensées, que le diable introduisit le péché avec ses conséquences funestes dans l'humanité. Dieu, là, il aurait pu dire « chose promise, chose due », car en effet, Dieu avait bien déclaré « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Adam et Ève ont mangé et ils sont morts. Ainsi, la mort est entrée dans le monde. Non seulement la mort physique qui viendra plus tard lorsque le corps d'Adam et Ève auront vieilli, mais aussi la mort spirituelle, la mort éternelle. L'homme, là, il a été séparé de Dieu, privé de référence à son Créateur pour l'éternité. On peut-tu dire que le monde peut bien aller tout croche? Car l'homme, d'ami de Dieu qu'il était, est devenu son ennemi. Misérable, mais misérable que nous sommes. Puis, il y a 4 domaines particuliers dans lesquels cette rupture a eu lieu. Puis, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Premièrement, une rupture par rapport à lui-même. Tout à coup, l'homme se rend compte de sa nudité. Sa conscience l'accuse. Genèse 3:7. On va être dans Genèse pour un petit bout de toi, là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. L'homme, là, il a honte et peur. Il se cache de son épouse et de Dieu. Deuxièmement, une rupture par rapport à Dieu. Genèse 3, 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Avant l'entrée du péché dans le monde, la présence de Dieu parcourant le jardin était une rencontre suprême, magnifique. Mais à présent que l'homme a désobéi, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il a peur, parce que sa conscience l'accuse. Il sait qu'il est sous le jugement de Dieu. Troisièmement, une rupture par rapport à sa femme. Quand Dieu demande des comptes à Adam, il répond « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse 3:12. Rejetant la responsabilité sur son épouse au lieu de l'assumer lui-même. L'harmonie entre l'homme et sa femme, je peux-tu vous dire qu'elle était brisée? Dès lors, il aura tendance à dominer sur elle. Terme jusqu'ici qui était seulement réservé à son rapport avec la création et les animaux. Alors que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Nous avons ici la naissance du marxisme et du féminisme. Messieurs, mesdames, écoutez pas là. Je sais pas pour vous là, mais moi ma femme des fois elle me dit que je suis un peu macho. Alors si c'est votre cas, maintenant, vous savez que ça vient des conséquences de la chute et nous en portons encore les traces. Quatrièmement, une rupture par rapport à la nature. Genèse 3, 17 à 19. Il dit alors à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. » C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles, et tu mangeras de l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous comprenons donc que le premier péché ne fut pas une désobéissance anodine. En fait, ce fut un drame cosmique, un drame qui eut des implications dans toute la bonne création de Dieu. Dès cet instant, même la création va aspirer au renouvellement de toutes choses, attendre le retour du Seigneur en gloire pour être rétabli. Ce refus de l'homme d'accepter sa place de créature, sa révolte contre Dieu en écoutant le diable plutôt que le commandement divin, est un drame qui a des conséquences dans la création toute entière. Comprenons donc bien qu'il est toujours aussi terrible pour nous d'aller à l'encontre du commandement de Dieu. Refuser d'écouter sa parole, refuser de s'y soumettre, essayer de la relativiser ou accepter les compromis est une arrogance et un orgueil immense. En réalité, là, quand on fait ça, là, c'est vous croire plus grand que Dieu. Il est impossible d'agir ainsi impunément. Deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est la transmission du péché à toute la race. Peut-être pensez-vous que le péché d'Adam ne vous concerne pas. Vous ne vous sentez pas lié à ce personnage qui a désobéi à un moment lointain de l'histoire. Mais une telle excuse n'est pas compatible avec l'enseignement de l'Écriture qui affirme qu'il existe bien un lien indissociable entre chacun d'entre nous et Adam. Qui fut le premier homme à mourir? C'est pas Adam, mais son fils Abel, qui pourtant n'était pas particulièrement méchant. Au contraire, l'Ancien Testament nous dit que l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et pourtant, il fut le premier homme qui mourut physiquement. Qu'en est-il de tous les nouveau-nés qui meurent aujourd'hui, qui n'ont ni le temps ni le moyen d'accomplir un acte en bien ou en mal? Pourquoi meurent-ils? Parce que la conséquence de la désobéissance d'Adam repose sur eux aussi. Parce que la mort, qui est le jugement dû à la désobéissance d'Adam, repose sur toute sa descendance. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 22, « Tous meurent en Adam. » Parce qu'Adam est le père naturel de tous les hommes. Acte 17-26 nous dit « Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. » Toutes les nations humaines sont issues d'un seul homme, Adam, qui s'est détourné de Dieu et qui est tombé sous son jugement. Ainsi, si la branche est souillée, comment pourrait-elle porter de bons fruits? Un arbre sauvage, là, ça produit des fruits amers. Puis le seul moyen pour qu'il produise des fruits doux, c'est de lui greffer une branche aux fruits doux. Adam, père naturel de toute la race, a toujours produit des hommes et des femmes atteintes dans leur nature même par le péché. Et donc, sous la colère de Dieu, bien entendu. Éphésiens 2:3 nous dit... Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par nature, chaque être humain est né sous la colère de Dieu. Jérémie 17:9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. » 1 Roi 8:46 nous dit « Il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Ainsi, parce que nous sommes les descendants d'Adam, nous avons une nature pécheresse. Mais vous savez, le lien avec Adam, là, il ne s'arrête pas là. Car dans le jardin d'Éden, il était le représentant de toute l'humanité. C'est pourquoi nous portons aussi la culpabilité qui résulte de son choix. Romains 5:12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et juste un petit peu plus loin, 5:18, « Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. » Adam est donc notre père et notre représentant. Nous comprenons alors que ce ne sont pas nos actes mauvais qui nous rendent pécheurs, mais qu'ils sont une démonstration extérieure que nous sommes pécheurs par nature, que notre cœur est mauvais et tortueux. C'est ce que Jésus exprime face aux pharisiens dans Matthieu 15:19 quand il leur dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » À la lumière de cet enseignement, il est donc impossible d'affirmer qu'un enfant naît innocent et qu'il n'est corrompu que par sa famille, l'école ou la société. Non. Chacun de nous est né avec un cœur pécheur parce qu'il est de la descendance d'Adam. Chacun de nous porte la culpabilité d'Adam et se trouve sous la condamnation et la colère de Dieu parce que Adam, là, il est notre représentant. Jacques Pelletier, vous le connaissez, hein? Mm-hmm. Une phrase qu'il aime beaucoup dire et qu'il dit très, très souvent, « Nous sommes vraiment de misérables pécheurs. » La misère actuelle de l'être humain, c'est qu'il vit dans un univers qui est sous le jugement de Dieu jusqu'au glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis cette misère, là, c'est que la condamnation s'étend à tous les hommes, aucun d'eux ne pouvant y échapper. Nous avons perdu la capacité de faire ce qui plaît à Dieu et de lui obéir nous-mêmes, comme Adam avait pu le faire. Car notre nature, elle est pécheresse et sous le jugement éternel de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ lui-même nous dit « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25:41. Nous sommes atteints par le péché dans tous les domaines de notre être, dans notre pensée, dans notre entendement, dans notre moralité et dans notre vie spirituelle, dans notre intelligence et dans notre conscience. Éphésiens 4:18 et 19 nous décrit l'homme pécheur. Ça dit « Il a les pensées obscurcies. Il est étranger à la vie de Dieu, ignorant et endurci dans son cœur. Il a perdu tout sens moral. Il est livré au dérèglement. » Voilà ce qu'est l'homme pécheur loin de Dieu. Selon Tite 1, 15 et 16, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune œuvre bonne. Voilà la misère actuelle de tout homme qui vit loin de Dieu. Vous savez, la notion de dépravation totale, comme elle est employée dans la confession de foi ou dans les catéchismes, ne veut pas dire que l'homme, la femme ou l'enfant soit aussi mauvais qu'il puisse l'être dans tous les domaines de sa vie, mais plutôt que chaque domaine a été atteint, entaché par le péché. Comme une seule goutte de poison suffit à souiller tout un verre d'eau pure, là, sans que le verre entier soit du poison pur, le péché, là, il a atteint chaque aspect de la vie de l'homme. Mm-hmm. Vous savez, bien qu'il en soit ainsi de chaque être humain, Dieu, dans sa grâce générale, a établi des moyens pour restreindre le mal en nous. Il a donné une conscience à chaque être humain, la crainte de la mort, une famille, une certaine éducation, et il a établi les gouvernements civils. Ce sont là autant de barrières par lesquelles il nous empêche d'être aussi mauvais que nous le devrions. L'homme, là, il est totalement dépravé. Néanmoins, il reste responsable et libre de ses choix. Mais liberté de choix ne veut pas dire qu'il puisse faire tout ce qu'il veut, car l'homme, tout en étant libre de ses choix, agit toujours en fonction de sa nature. Il en va de même par rapport au péché et à Dieu. L'homme sans Dieu est libre de ses actes, mais il est incapable par lui-même de choisir la voie de Dieu. C'est ce que Jésus d'ailleurs nous dit dans Jean 10, 26. Il dit, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Vous ne croyez pas en réalité parce que vous êtes incapable de choisir la voie de Dieu, incapable par vous-même de vous tourner vers Dieu. Le bilan sur la misère actuelle de chaque être humain est donc extrêmement, mais extrêmement sombre. Chacun étant sous le jugement de Dieu, pleinement responsable de ses actes et sans aucun espoir de salut en lui-même. Puis la doctrine de la chute, elle s'arrête là. Mais par la grâce de Dieu, nous, on ne s'arrêtera pas là. Car si l'état de chaque être humain est en effet extrêmement sombre, il existe une bonne nouvelle pour le pécheur. Ce principe de représentation, selon lequel nous sommes pécheurs coupables à cause du péché d'Adam, nous paraît parfois un petit peu dur à accepter. Pourtant, ce principe de représentation vaut également pour le salut. Christ est notre représentant. Dans le texte que nous avons lu de Romains 5, 12 à 21, Paul y établit un parallèle entre Adam et Jésus-Christ pour nous montrer que, comme Adam était le chef qui nous entraîne dans le péché et la mort, nous sommes libérés, justifiés par Christ qui est notre représentant. Le chef d'une nouvelle race. On va examiner particulièrement, si vous le voulez bien, Romains 5, les versets 17 à 19. Ça dit, « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? » Ainsi, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est une bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour le pécheur. Jésus-Christ est le représentant de la race nouvelle. Il a, comme ça a été mentionné ce matin, il a obéi parfaitement à la place du pécheur. Il a porté la culpabilité à sa place. Il lui donne sa justice parfaite. Cela était impossible à tout être humain né par génération naturelle, puisque, par elle, nous avions une nature pécheresse, comme on a vu. C'est pourquoi Christ, bien qu'issu de la postérité de la femme selon la promesse de Genèse 3,15, a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie afin de ne pas être souillé par la nature pécheresse. Ainsi, à nous qui sommes en Christ, qui plaçons notre foi en lui comme étant chef et représentant, la réconciliation avec Dieu est accordée. La condamnation n'a plus d'emprise sur nous. Nous sommes au bénéfice de bénédictions éternelles et, bien qu'il nous arrive parfois de pécher, puis ça c'est un euphémisme, hein, nous vivons d'une manière radicalement nouvelle. Nous ne cherchons plus à nier nos péchés, mais nous les confessons avec la certitude que le pardon de Dieu est là. Nous avons l'assurance qu'un avocat intercède pour nous et nous sommes nous-mêmes des ambassadeurs de la réconciliation. Si lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu une rupture dans les quatre domaines mentionnés plus tôt, là, en Christ, le croyant manifeste la réconciliation de Dieu dans ces domaines-là. Il est réconcilié avec Dieu. Il travaille à se réconcilier avec son prochain. Il se réconcilie avec lui-même. Et il vit en apprenant à respecter la création toute entière. Si cette doctrine du péché originel et de la culpabilité de tout homme devant Dieu vous a effrayé, n'oubliez pas qu'en Christ se trouve un sauveur parfait qui est venu sauver des pécheurs comme vous et moi pour les réconcilier avec Dieu. Tournez donc vos regards vers lui. Placez votre confiance en lui afin que cette mauvaise nouvelle soit aussi une bonne nouvelle qui vous conduise aux pieds du Seigneur. Puis j'aimerais me joindre à l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.
Amen.